Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Lecture en liberté, Denis Flagel.
Bonsoir. Nous voici à nouveau dans nos lectures en liberté pour démarrer cette semaine la lecture d'un court roman de Xavier Gral, La fête de nuit. La fête de nuit. Une fois de plus, la chienne de poésie était en lui. Comme un voleur, il avait quitté l'atroce banlieue pour courir à la fête. C'était dans la ville, au centre d'un quartier de craie et de luxe. Il devinait derrière les vitres du bar les immeubles amarrés à l'ombre, bateaux à quai. La sainte poésie en lui brasillant son feu. La terre, avec ses effusions et ses charmes. Le sixième verre de scotch brillait dans ses doigts comme un astre. Il y avait des banquises de glace dans l'alcool. Il porta le verre aux lèvres, heureux de sa seigneurie. Médecins, prêtres, parents, famille, ils se trompaient tous. Il porta le paradis de la terre à ses lèvres et il but, goulûment. Lui, Glenn, était là, magnétisant les êtres et les objets, et Kerouac aussi était de la fête. Tout un peuple exalté gesticulait dans le bar, les boissons flamboyaient dans les corps comme des flammes et voguaient les regards, denses, dingueries, frairies. Les bouteilles sur les étagères du bar, avec les étiquettes multicolores. Il y vit des chilis de rêve, de blanches cordillères de pastis, des Amériques de whisky et l'Aquitaine du cognac. Il pensait que ce ne serait jamais fini, qu'il y avait à porter de quoi insidier son âme jusqu'à la fin du monde. Il croyait en lui, en tout. Traversé d'alcool et d'illumination, il était Arzel, barde. Avec Glenn, il avait refait le pays d'Armorique, l'adorable Terre-Neuf du Ponant, recréé à coups de rimes et de saunes. Là-bas, on avait peint ses poèmes sur les murs des villages. La Gwerz, enfin reprise par son peuple, et Glenn, par ses chansons, avait rallumé les orgueils, secoué la vieille dolente Bretagne. Il commanda un autre scotch. « Je paie tout !» gueulait Glenn. « Tout ! Je veux que tout le monde ici soit ivre !» Ainsi soit-il. Oui, Arzel ne demandait que ça. La mesquinerie des devoirs domestiques envolés. Ni fils, ni citoyen, barde seulement. Et la ville de Craie lui était enfin soumise, avec ses opéras pavoisés de girandoles, avec ses boulevards jaunis de néons, avec ses souterrains pleins d'hommes larvaires. Le bar se trouvait au centre de la cité, encerclé par les arrondissements dormants, îlots autonomes que la bande des copains avait pris d'assaut. Des musiques volaient dans sa tête, des harpeurs jouaient dans son sang des complaintes. Plus tard, il y aurait des triomphes et des hymnes. Plus tard, la grande bohème lyrique, un fest-noz éternel. L'alcool glissait dans sa gorge doux, moelleux comme un matin d'Orient. Plus tard, il le taperait aux tempes, claboudrait dans son corps comme un fou. Arzel chassa ses idées noires. Ses pressentiments chaque fois se confirmaient quand, dans le petit matin, après boire, la démence rôdait dans son crâne et que le poursuivait d'obscures malédictions. Il triturait le temps, il vivait dans l'instant, écartant les dures perspectives de l'aurore. Glenn vint s'asseoir à sa table. Ses longs cheveux pendaient dans son cou, visage blanc. Flamme bleue de son regard, par laquelle il exerçait une fascination alternativement angélique et démoniaque. Arzel l'aimait. Il lui faudrait un jour se débarrasser de ce joug. Et soudain, il pensa que cette nuit serait la dernière flambée de leur commune bohème, que quelque chose se passerait dans les heures prochaines, il ne savait quoi. Alors, peut-être viendrait le temps de la veine. « Ça va, Arzel ?»«
Ya, matré. »
Et cependant, à cette seconde, dans la sonore coquille du bar, les deux amis se sentaient en parfaite amitié. C'était la veille du chaos. Le quatrième récital celtique avait été un triomphe. À peine éteints les feux de la rampe et les hermines glorifiées, il avait couru au bar pour la fête rituelle.
« Te voilà vedette, » dit Arzel. « Autrement dire, foutu. »« Oh, je n'en ai pas encore marre de ce cirque, » répondit Glenn. « Ça viendra. »«
Non, jamais. Tu en as besoin. »
De tout ce bordel, tu as besoin. Ferme ta gueule et bois.
Tu te souviens? Il pleuvait ce jour-là sur Péros.
Glenn éclata de rire, un rire de partout, une cascade de rigolerie.
Ah, ce que c'était con, ajouta Arzel. Il parlait de l'article qu'il avait consacré à son ami Naguère. C'était par une pluvieuse morte journée de pluie sur un trégor rose, ennuyé, estival. Leur première rencontre, leur reconnaissance. Arzel avait découvert un loup dans la tanière de Péros, un loup d'Armorique, intact, cruel, génial.
Au cabaret ce soir-là, Glenn avait soigné son tour de chant. Il lui arrivait ainsi de préparer ses séductions quand un journaliste apparaissait dans l'ombre redoutable des tavernes.
Arzel avait été séduit. Glenn lui était apparu comme le poète qu'il appelait depuis longtemps « Rutebeuf en argoite ». Il but encore. Appelant à lui le pays blanc, celui de l'éternelle jeunesse, insoucieux de sa santé mauvaise et des fragilités de sa raison matraquée par les bringues. Il entendit bientôt les bouteilles chanter des hosannas. Une sorte de concert spirituel s'échappait de la bouche des flasques. Le zinc brillait. Les copains remettaient verre sur verre. Encore quelques heures et tout le monde serait ivre. Tout au moins ceux qui auraient résisté saintement, héroïquement, à la tentation de partir. Le temps écumerait l'assistance. Au petit matin, ne demeureraient que les purs. Les alcools chantaient des hosannas. Arzel entendait leurs chansons jaunes, blanches, rouges. Son âme se mêlait au cœur bachique. Il voulait que le monde balançât dans une fête sans fin, avec ses marées à la corne des caps, avec tous ses vents assemblés dans les nues, avec le tohu-bohu des tempêtes dans les combles des manoirs, avec le son grêle et lointain et mélancolique des cloches dans les beffrois, avec le frisoli de la brise dans la rouille dansante des bouées. À ces moments inspirés dans le calme des mortes eaux alcooliques, l'univers lui apparaissait comme une symphonie, les astres et les étoiles formant un choral autour de la terre humaine, privilégiée, déjà divine. Chantaient les astres, les nébuleuses, tout ce qui, matière, errait dans l'immense blues des cieux. Et il y avait encore plus loin des mondes et des nombres insondables. Arzel voulait que l'univers balançât dans une fête sans fin, car il avait l'alcool généreux.
« Arzel, nous aurons fait quelque chose de cette putain de vie, » articula Glenn. « Tu crois ?
Ouais.
Glenn ne doutait pas de lui, de son talent, de celui de ses amis. Terrien, il arpentait son champ, tête baissée, le dos rond, le pas lourd et possessif. Enfant, il avait connu la pauvreté des fils de fermiers. Il avait couché dans la paille des écuries, s'essayant déjà à rimer dans l'air des chevaux. Et tout le jour, courant les prairies du Poère, dénichant filles et merles, l'œil bleu glacé, ouvert sur le mystère du monde. Il eût pu naître page sous le duc Jean V, ou bien même diriger aux victoires la cavalerie bretonne de Nominoé. Assurément, il eût été le même, voyou et rusé, paillard et tendre, féroce et doux. Il constituait à lui seul une sorte de miracle. Celte jusqu'au bout des ongles qu'il avait courts, car il les rongeait avec acharnement. « Bois !» dit-il. Arzel en était à sa demi-bouteille de scotch. Le whisky le rongerait prématurément. Et alors même qu'il portait à ses lèvres la fête brune, il se souvint des avertissements de son médecin, le docteur Azou, un ami. « Fais gaffe, Arzel ! Pas d'alcool, pas de tabac !» Justement ce qu'il aimait. Et encore, « Avec l'emphysème que tu as, vieux, les excès seraient catastrophiques !» Il avait essayé de lutter, en vain. Il puisait sa force dans la violence des fêtes. Et ce soir, une fois de plus, il s'abandonnait au fleuve. « Mon fleuve amour, disait-il. Rompre la glace, briser le mur, franchir toutes les distances, fraterniser avec tout ce qui sur la terre bien-aimée bougeait, haletait, vivait, aimait, tel était son programme. Glenn, je sens que quelque chose va arriver cette nuit, je ne sais pas quoi, quelque chose de nécessaire. « La nuit, il arrive toujours quelque chose, » répondit Glenn. Et il rejoignit Léna, une brune lorette aux publiques impatiences. Jack alors abandonna le jukebox et rejoignit Arzel, Kerouac, toujours le même. Il venait de ses States enquêter sur ses origines bretonnes. Il avait... cette gueule d'ange hirsute que l'on aurait pu voir sculptée dans la dure pierre des porches à Gimilio ou Comana. « Hello, Arzel !» Arzel l'embrassa. Il sentit sur ce visage fruste aux yeux d'ange le vent des routes. Il enviait l'écrivain US. Il enviait son innocence, son nomadisme lyrique et pour tout dire, sa liberté.
« Comment va, Jack ?»«
Oui, bien. »
Évidemment. Ils remirent du scotch sur la table. C'était toujours ainsi.
« Tu tiens la forme ?»«
Oh, yes. » »«
Oh, 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 quel diable. Ah, mon raclet me fait nos. Des dentes, il en est strain. Ugly. Oh, 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 quel diable.
mais à son distraut. Oh, morgen Abend, sur les grands eaux. Oh, 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 quel dia.
Lecture en liberté, Denis Flagel.
La fête de nuit, Xavier Gral. Avec Jack, c'était toujours « yes ». Kerouac disait toujours « oui ». Là était sa force et son charme. Arzel pensa que le beat avait la grâce, que tout en lui relevait de la bonté et de la merci. Mais avec il ne savait quoi de surfait. Quelque chose de très américain. Un Breton qui avait réussi, c'était tellement rare. Cependant, la gloire ne lui tournait pas la tête, elle lui conférait parfois, dans le geste et dans les cris, une assurance qui pouvait friser le mauvais goût. Et cependant, Jack avait chanté le monde magnifiquement, les trains, les ports, les squares, les chambres d'hôtel, les rives, les navires. Arzel, observant son ami, pensa qu'il aurait dû être comme ça, sûr de lui, ouvert, disponible, bénissant la vie. Des pavés de New York, ce barde-là avait surgi, enchanté, portant le goût de la fête celtique jusque sur le béton de Brooklyn, beau prince de cette diaspora bretonne qui, aux quatre coins de l'univers, cuvait ordinairement de vaines nostalgies et d'incurables désespoirs. « Je reviens de Brest, dit-il, formide, les bars de la rue de Siam. » Et ce pharmacien que je croyais être mon parentage, et qui n'était que pharmacien, avec deux jolies gonzesses, ses filles. Au 18e, beaucoup de Bretons sont partis, ils avaient faim. Je voulais savoir d'où je viens, voir mes pères. Remarque que j'ai aussi du sang indien dans les veines, car mon ancêtre n'est pas allé directement aux States. Il s'est d'abord installé sur les bords du Saint-Laurent, un trappeur. Ce Breton-là ne sera pas baratté de sang avec une fille des prairies, sacré Jack, rien de tel pour rallumer la flamme. Ils se trouvaient bien, tous les deux, d'être en même temps. Ils se voyaient ainsi un peu au hasard des bistrots entre deux vols de la Paname. Jack débarquait du jet avec son sac à dos, ses godillots et ses mains sales comme un boy scout dans la débine. Quand ils se retrouvaient, ils parlaient de Bretagne et de poésie. « Écoute, Arzel, je vais te dire, je m'en fous. Après tout, je suis des vôtres, ça suffit. » En France, le sais-tu, il n'est pas très bien vu de se proclamer breton. On est des ploucs, les ploucs de ces messieurs. Plouc, what is it? Apprends ta langue. Ça vient du breton plou, hameau, village. Ok, paysan, quoi, croquant, cutéreux, mal léché. « Non, » répondit Kerouac, « à la bonne nôtre, tchin-tchin !» Ils burent après avoir cogné leurs verres l'un contre l'autre. Le tumulte montait autour d'eux. Tout à l'heure, la marée serait pleine et il y aurait bien des naufrages. « Je vais te dire, Jack, je sais peut-être d'où démarre ta généalogie. Tu blagues ? Non, non, je vais te dire. Des Kerouac ou Kerroual ou Kerroul, il y en a des tas en Bretagne. Mais il se trouve surtout dans le Finistère, à côté de Guimiliau. Il existe un village qui porte ton nom. Tu mens, Arzel. Non, près de Guimiliau. C'est de là que tu sors, Forban. Du reste, ta gueule, c'est exactement la gueule des gars que l'on voit dans les champs par là-bas. Je te verrai très bien dans nos landes sifflant les chiens à la brune. À la tienne! J'étais tout prêt. Cheese. Mais qu'est-ce que j'allais foutre à Brest et chez un pharmacien encore? Bah, tu oublies les gonzesses, mon gars. Ouais, mais ces colombes, elles étaient intouchables. C'est pas tout. Le hameau de tes ancêtres, je le connais. Jadis, j'ai acheté un épagneul là-bas. Je l'ai appelé Kerouac. Salaud, non? Il avait la même gueule que toi, ton nez, tes yeux, tes doux yeux. Thank you. À la tienne. Attends un peu, Jack. La suite est moins drôle. La ferme de Kerouac, c'est une masure. Et la fermière qui la tient élève des chiens pour sortir de la poisse. Elle fait pitié. Les chiens sont maîtres des lieux, des décombres, et tout ça d'une crasse épouvantable. Voilà ce qu'ils ont fait du pays. Kerouac sortit un calepin de la poche de son jean, écrivit quelques mots. « Tu vois, Jack, ton poème, Mexico City Blues, tu devrais lui donner une suite bretonne. Nous, on est Aztèques aussi. Fais-le, ce poème, Arzel. »
Arzel éclata de rire.
« Tu rêves. Nous, ici, nous ne sommes rien. Qui nous croira ? Quel éditeur ? Quel public ? Vous, les Américains, vous avez cet avantage. Vous pouvez tout écrire, tout dire, tout chanter. La veine des barbares. Ici, c'est Rome, le droit, la règle, la cohérence, la logique. Ici, le muséum et le greffe. Je t'envie, Jack. Moi, je ne suis libre que lorsque je suis sous. C'est assez atroce tout qu'on te fait. On m'a mis le grappin dessus et je stagne. Toi, tu nobadises, tu bourlingues, vagabond. Et tu vas toujours ailleurs. Ton œuvre, une quête. Saint Graal, sacré bitnik. Baho he yavat. Tu pries toujours ?
Oh yes.
Le dernier catholique, c'est toi. Un chrétien radieux. Moi, il me dégoûte ces croyants à gueule de croque-mort. Un chrétien, ça devrait tout le temps danser le jabadaw et parler moins de morale et de péché.
Arzel, là, se trouvait confronté au double visage de son pays. Glenn, c'était le druide pagan, païen, iconoclaste, farouchement attablé et attaché à la grande nuit celtique, faite de magie et d'initiation. Kerouac, c'était la Celtie convertie, lyrique, bourlingueuse, celle qui venait des îles sur des auges de pierre pour planter des croix sur les menhirs, l'errante et prophétique Bretagne qui envoyait aux quatre coins de l'univers des moines voyageurs. Ici, une cosmogonie poétique et géniale, là, une religion de tendresse. Un lien existait entre les deux Celties, la croyance en un dieu unique.
Arzel savait l'histoire de son peuple. Il se souvenait qu'un chef celte, culbuteur de légions hellènes, un jour qu'il pénétrait dans un temple d'Athènes, avait accompli ce geste magnifiquement théologique. Devant ses hommes, il avait éclaté de rire. Car à ses yeux, il lui était paru ridicule que des croyants eussent pu croire à plusieurs dieux et plus imbéciles encore qu'ils eussent la naïveté de leur donner des représentations humaines. Dieu était l'unique et l'ineffable, et il était l'invisible, le souffle, l'incréé. Il manquait au tenant d'un Saint-Sulpice de plâtre et de bon dieuserie d'avoir perçu ce magnifique éclat de rire.
Arzel, quant à lui, assailli de doute, traqué de colère, reprochait à l'Église ses manies juridiques et sa politique de puissance. Sur combien de cultures originales n'avait-elle planté de crosses ? De ce côté-là, il donnait volontiers raison à Glenn. Sur des charniers fumants, au bout de leurs rapières, les soldats catholiques avaient poussé des peuples transis des froids aux lumières des sacrements. « Je te baptise dans le sang !» Les peuples avaient perdu leur propre voix. Leurs rites avaient été interdits ou déviés de leur sens. Dans quelle mesure, du reste, toute religion qui se prétendait universelle n'était-elle pas oppressive ? Au nom de la crucifixion du Christ, combien d'hommes et de femmes n'avait-on pas crucifié ? Voilà pourquoi Arzel rendait gloire dans son cœur et au nom de la tolérance du Christ à ces peuples humiliés et offensés, déracinés de leur souche et de leur temple, druides chassés dans les montagnes, morts de froid, les mains crispées sur leurs secrets cosmogoniques. Sorciers maoris jetés au fer loin des feux de Santal, prêtres mayas passés au fil des épées castillanes. En bon celte, la raison d'État lui était une notion complètement étrangère. Un crime était un crime, et à tout prendre, un crime politique lui paraissait plus odieux qu'un crime passionnel.
Ainsi, les grands capitaines que l'histoire occidentale lui présentait comme des héros lui donnaient la nausée. Il crachait sans vergogne sur l'effigie des Césars. Il bénissait dans son cœur ceux-là qui étaient morts dans le cresson bleu, au créneau de leur donjon cathare, dans la jungle fétichiste des îles pacifiques.
« Tu écris ?»«
Sans qui, Kerouac ?»«
Ouais. »«
Mais j'arrive pas à dire ce que je veux. Tout m'échappe. » Je ne sais pas pourquoi, depuis plusieurs mois, j'ai l'impression que tout glisse entre mes doigts, que mon imagination tourne à vide, ma santé fout le camp. J'en ai plus pour longtemps, je le sais, l'idée d'un grand poème me tente, la Saône des pluies et des tombes, ultime chanson.
Enferme-toi dans une pièce et travaille.
Oui, mais attends, quelque chose s'est brisé, je n'ai plus que des idées.
On ne fait pas de livres avec des idées, pas seulement. Je vais te le dire, je deviens intelligent. Si, si, ne rigole pas, et en devenant intelligent, je ne peux plus créer.
Bois, t'as le cafard, Arzel.
Et Jack, titubant, s'en retourna à son jukebox. Bientôt, un air de harpe traversa le bar. C'était un disque d'Alan Stivell. Jack se mit à danser. Dans un coin, un homme buvait un jus de fruits. C'était dans la fête incongrue, mal élevée. Arzel reconnut le flic ordinairement chargé de la surveillance de la bohème bretonne. Il avait une tête de rat, cravate et chemise blanche. Il s'appelait Le Gall. Pauvre type, pensa Arzel. La fête, la fête, la fête. Rire, danse, pop, folk, ça y allait rondement, véhémentement, la ville éteinte, parfois sur le boulevard, les torches jaunes des voitures comme des signes lointains, silencieux d'un autre monde. La fête, le bar paradis, et l'odeur du whisky flottant, la fête inouïe où tous les sens trop longtemps tapis lâchent bride, explosent, la fête de nuit, fest-noze, medianoche, où Arzel amassait ses visions dans un bonheur insolite, éphémère, rime de Baudelaire, dansant comme des notes de musique sur les corps des filles, dans les chevelures dénouées, la fête.
Glenn avait rejoint son ami. Le Gall les observait en se curant les dents. Arzel voyait des couples se former, se dissoudre, s'étreindre. Beaucoup braillaient. Le barman ne savait où donner de la tête. Et Glenn, périodiquement, hurlait dans la fumée « Serre-leur ce que tu veux, je règle tout !»
L'argent, il ne l'aimait que pour ça, pour les bohèmes torrides, pour les nuits brûlées dans les démences du boire.
Dans sa vie, il avait connu l'humiliation des vers mendiés au coin des zincs. Pour s'en sortir, il avait fait tous les métiers, supporté la grise misère des garnis et la demi-prostitution des boîtes. C'était fini. Sa vocation bardique, il l'avait réalisée. Il vivait d'elle, à présent, féodalement.
Glenn, dans sa gloire, enfin, reconnu, aimé, ô vainqueur.
Voilà donc pour ce soir cette première lecture du texte de Xavier Gral, La fête de nuit, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guillon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.